Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Dorothée Rouzet. Je le disais en introduction, bonjour. Hello. Dorothée, chef économiste de la Direction Générale du Trésor, au cœur des discussions du G7 Finance, du G7 Commerce, bien sûr. À vos côtés, Anthony Morlel, Lavie Dali. Bonjour Anthony, économiste chez Rex et Code. Et face à vous, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas, fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès. Quelle priorité économique pour le G7 sous présidence française? Je le disais, les ministres du commerce du G7 se retrouvent aujourd'hui et demain à Paris pour discuter surcapacité industrielle, minerais critiques et petits colis. Mais pas droit de douane, Dorothée Rouzet, pas droit de douane, alors même que Donald Trump a à nouveau menacé les Européens et les Allemands, plus particulièrement, de 25% supplémentaires sur les automobiles. Quels sont les enjeux, pour commencer, de la réunion de ce jour-là à Paris?
Oui, alors peut-être rappeler déjà, donc le G7, c'est un groupe de coordination ou de coopération entre sept grandes économies.
Commençons par le commencement,
dans les années 70. Donc il y a la France qui assure la présidence cette année. La présidence tourne chaque année entre les pays. L'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon, ainsi que l'Union européenne également en tant que telle. Et donc chaque année, quelque part, la présidence définit les priorités qui sont plus des sujets structurels ou de fond,
oui.
Qui sont travaillés par des groupes techniques, ensuite par les suppléants des ministres et je dirais dans chaque filière du G7, finance, commerce, intérieur, environnement, etc. Ça culmine par des réunions ministérielles et ensuite par le sommet des chefs d'État qui aura lieu au mois de juin. Donc en fait, on travaille un petit peu en remontant la chaîne, je dirais, du niveau technique au niveau très politique pour à la fois partager des informations, des analyses, des expériences et trouver des réponses coordonnées au sujet qu'on a en commun, là, dans le domaine commercial. On a aussi des discussions sur les crises, notamment alors en filière finance, évidemment la crise au Moyen-Orient, et évidemment l'Ukraine, évidemment le Liban. Enfin, donc les priorités urgentes au fil de l'année, on en parle évidemment aussi. En revanche, c'est pas vraiment une instance de négociation bilatérale. C'est-à-dire, c'est pas autour de la table du G7 que l'Union européenne va négocier avec les États-Unis ou parler de ses différends. Évidemment, pendant que les représentants sont là, ils se parlent aussi en marge. Enfin, il y a aussi des rencontres entre ministres en marge.
Évidemment.
Mais on va quelque part pas faire notre négociation avec les Américains, avec les Canadiens et les Japonais dans la salle, etc. Donc, c'est pas exactement cette instance-là. Par contre, c'est aussi l'occasion pour tout le monde de se parler.
Donc, une instance de dialogue, de réflexion. On se nourrit les uns les autres. Morlaix, Lavie Dali, je le disais, aujourd'hui, c'est un G7. Il y a deux piliers. Faut peut-être qu'on explique ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un pilier G7 commerce en termes de questions économiques. Il y a le G7 commerce et le G7 finance qui sont les deux couloirs de discussion en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est un G7 commerce. Quels sont les enjeux de cette réunion?
Ce qui est très frappant, c'est qu'on va parler évidemment des déséquilibres mondiaux. Je crois que c'est un peu la grande thématique. Avec cette idée de surcapacité industrielle qu'on a à l'échelle mondiale, un peu alors qu'ils sont très localisés en Asie, mais qu'on retrouve un peu partout. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que il y a un petit peu un paradoxe ou une schizophrénie entre à la fois l'idée de vouloir lutter contre des surcapacités industrielles et en même temps tous les pays veulent réindustrialiser. Enfin, réindustrialiser, c'est rajouter des surcapacités aux surcapacités. Donc ça, c'est quand même une grande problématique, oui. C'est de se dire est-ce qu'on est en fait ce qu'on demande, c'est que certains pays abandonnent pour partie des capacités industrielles, à fortiori l'Asie, ce qu'ils sont absolument pas prêts à faire parce qu'aujourd'hui c'est devenu en plus une arme de rétorsion commerciale et même de négociation diplomatique. Et nous, on aimerait retrouver un peu de souveraineté, parce que c'est un petit peu le mot à la mode, et de sécurité économique, revient aussi dans le verbatim. Et c'est toute la difficulté. C'est est-ce qu'on est en capacité, en réalité, de revenir faire fleurir sur le territoire européen, et pas dans tous les pays, parce qu'on a certains pays comme l'Allemagne qui sont déjà en surcapacité, au fond. Donc, on a des pays qui, nous-mêmes, sont concernés. Et quand on parle aussi de déséquilibre, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'Europe contribue aux déséquilibres mondiaux. On est en excédent d'épargne, alors qu'il faut prendre la zone euro dans son ensemble, pas la France. Mais la zone euro dégage un excédent courant absolument gigantesque. Donc on pourrait nous-mêmes, en quelque sorte, faire une partie du travail en stimulant davantage la demande européenne. Très souvent, on se dit qu'on est dans des régimes de basse croissance, on a des marges de manœuvre, alors elles sont localisées dans certains pays, et malheureusement pas chez nous. Mais probablement, on pourrait faire une partie du travail. C'est-à-dire, quand on demande aux autres de faire des efforts, la zone euro pourrait aussi regarder en son sein ce qui est capable
C'est bien le but.
Et les Pays-Bas, par exemple, faut arriver à
Mais faire des efforts, pour ceux qui nous écoutent, et qu'on explique bien ce que ça veut dire, Nicolas Bouzou. Faire des efforts, ça voudrait dire quoi? C'est réorienter les flux d'investissement qui partent à l'étranger pour investir davantage chez nous, c'est ça?
Oui, ça veut sans doute dire quelque chose comme ça, mais je pense que c'est pas clair en réalité, que derrière toutes ces notions, en effet, de surcapacité, de déséquilibre, etc. En fait, ça fait, enfin, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, ça fait 25 ans et ces problèmes sont toujours les mêmes et on essaie toujours de les traiter dans le cadre des instances comme le G7.
Oui.
Néanmoins, je pense que c'est très important quand même d'avoir ce type de structure de coordination, surtout à un moment où le multilatéralisme a un peu volé en éclats. Je pense que c'est forcément positif et le G7 sans doute plus que le G20.
En fait, c'est un peu mort, non, le G20.
Bah, en tout cas, les témoignages, quand vous écoutez, moi, j'ai beaucoup parlé, Dorothée connaît ça de l'intérieur, mais moi, je vois ça de l'extérieur, mais j'ai beaucoup, je parle toujours avec les ambassadeurs, en fait, qui sont les ambassadeurs du pays qui reçoivent le G20, et tous me disent que, enfin, c'est devenu quelque chose, mais d'un ennui qu'on peine absolument à imaginer.
Oui.
Donc le
pouvoir
le G7 et les verticales du G7 sont sans doute plus adaptées. Après, ce que je voudrais dire quand même peut-être aussi pour donner le cadre, c'est que on va assez peu parler a priori des questions commerciales, mais c'est d'une certaine façon une bonne nouvelle. Parce que, non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le Liberation Day a eu lieu donc il y a un petit peu plus d'un an, et il n'y a pas eu de guerre commerciale. Moi j'étais très impressionné là par la lecture d'un livre d'un économiste qui s'appelle Richard Baldwin, qui est un spécialiste du commerce international et qui explique là dans son livre qui vient de sortir deux choses que je trouve tout à fait passionnantes. Première chose, c'est que il explique bien que les Américains ont déclenché une guerre commerciale, mais en fait il n'y a pas eu de guerre commerciale en raison de la réaction des acteurs. Les Chinois ont adopté la stratégie du fort au fort.
Ont montré des muscles.
Et ce sont les Chinois qui ont gagné, les Américains qui ont perdu schématiquement. Les autres, c'est-à-dire les Européens, Canadiens, Britanniques, ont plutôt fait profil bas. Et ils ont eu raison parce que d'une certaine façon, ils ont gagné aussi. C'est-à-dire que ça a réussi à calmer.
Ils ont eu les taux les plus faibles.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais le Royaume-Uni, à peu près pareil. Donc ça, c'est la première chose. C'est quand même très intéressant de cette remarque. La deuxième chose que remarque Baldwin, c'est que, certes, le multilatéralisme a éclaté, provisoirement, à mon avis. Mais en fait, il y a eu une multiplication des accords régionaux. Et aujourd'hui, beaucoup de pays, regardez le Canada par exemple, beaucoup de pays cherchent à renforcer leurs relations économiques, commerciales surtout, mais pas seulement, avec des accords régionaux. Et Baldwin explique que c'est pas si idiot que ça, en fait, parce que ces accords régionaux, ils peuvent donner le sentiment d'un désordre général, parce qu'on n'a plus l'organisation
et d'une
mondiale
fragmentation
du commerce
du monde,
ça.
D'une
mais
forme
en fait,
de
ils sont assez efficaces et ils ont des forces d'attraction qui sont importantes, si bien que il n'y a pas eu de guerre commerciale depuis un an, il n'y a pas eu véritablement de démondialisation non plus. Quand on regarde les flux commerciaux,
ils ont augmenté, hein.
Alors ils sont plus coûteux. Ils empruntent des chemins différents, plus longs, plus compliqués, les routes. Alors, c'est pas que le protectionnisme, c'est aussi, bien évidemment, la crise géopolitique. Mais en fait, on voit plutôt une augmentation du coût de la mondialisation qu'une démondialisation. Tout ça pour dire que on a eu le protectionnisme, on a deux fronts, en Russie, Ukraine et Proche et Moyen-Orient. Ben finalement, la mondialisation, elle est toujours là, et le commerce international est toujours là, dans un mode dégradé. Mais il est toujours là.
Oui, puis qui augmente, encore une fois,
oui,
vu les chiffres 2025, hein, de 2025, Dorothée Rouzé, corrigez-moi si je me trompe, mais les échanges internationaux ont progressé en valeur beaucoup, en volume aussi pas mal, en dépit de la guerre
commerciale. Oui, alors il y a eu plein d'effets assez spécifiques. Au début de l'année, il y a eu toutes les effets d'anticipation avant les droits de douane. Donc il y a beaucoup d'échanges et de stockage au premier trimestre 2025. Ensuite, il y a eu tout le commerce lié à l'IA, en fait, de tous les produits liés à l'IA qui a complètement boosté le commerce international l'année dernière. Et puis, il y a des pays émergents qui sont toujours en croissance, donc qui continuent d'importer. Enfin voilà, il se passe toujours des choses dans le monde, même quand Trump impose des droits de douane. Effectivement. Ensuite, pour revenir aux sujets qui sont en fait les sujets aujourd'hui de coopération pour lesquels ça marche et c'est pertinent de se parler en G7 et qui vont être les sujets. La lutte contre les surcapacités industrielles. Alors c'est pas, enfin pour moi je dirais pas la Chine est en surcapacité, l'Allemagne est en surcapacité parce que les deux ont un excédent. Là l'idée c'est de regarder les pratiques déloyales, les pratiques qui sont non marchandes. Et comment coordonner, enfin comment à la fois les identifier, les mesurer, coordonner nos réponses.
Je vous coupe Dorothée, je voudrais qu'on comprenne. Ouais. Moi, je suis désolé. Ouais. La lutte contre les surcapacités industrielles, je pense que personne ne comprend ce que ça veut dire.
Si je donne un exemple concret, la Chine produit plus d'acier que l'ensemble de la demande mondiale en acier. Si c'est régi par les lois
uniquement
du marché,
la Chine, qui n'est
si
pas.
Si c'est régi par les lois du marché, ça marche pas. On peut pas, enfin ça ne peut pas être le cas. Donc ce qu'on appelle les surcapacités industrielles, effectivement, c'est pas clair et c'est pas un terme que la Chine accepte non plus. C'est la combinaison, je dirais, d'une offre surabondante sur le marché qui crée des risques non seulement industriels mais aussi de sécurité pour les autres pays. Quand on domine plus de la moitié de la production mondiale d'un bien, on a quand même des leviers de coercition sur les autres pays dont on voit qu'ils marchent. Et qui sont soutenus par des pratiques non marchandes. Alors, on parle beaucoup de subventions, mais c'est aussi le coût du capital pas cher qui est facilité par la répression financière en Chine, le fait d'avoir du foncier quasi gratuit. Voilà, c'est tout un ensemble de systèmes. Mais c'est pas du tout facile de mesurer en fait quelles sont ces pratiques. L'OCDE fait d'ailleurs un travail remarquable pour essayer de mesurer un peu dans tous les différents domaines quels sont tous les avantages dont bénéficient les firmes dans certains secteurs et les pays. Donc de les identifier, de les mesurer et de coordonner notre réponse. Donc il y a cet aspect-là. De même sur les petits colis, on a tous le sujet des petits colis qui explosent avec des enjeux de protection du consommateur,
c'est au sujet de la réunion aujourd'hui, etc.
C'est relativement nouveau pour tout le monde. Donc ne serait-ce que partager les informations, les questions opérationnelles, la coopération entre nos douanes, c'est des sujets utiles. Et puis sur les sujets qu'on appelle de sécurité économique, qui veulent dire
sur les minerais critiques,
là où on est vulnérable, et notamment sur les minerais critiques, comment trouver des solutions ensemble, parce que ça a aussi beaucoup de sens de dire essayons de trouver une réponse coordonnée, d'avoir des pratiques communes entre nous, de développer des partenariats avec d'autres pays pour diversifier nos sources, de réfléchir à davantage investir, raffiner, recycler chez nous, mais dans une sorte de club de pays qui se font confiance et qui vont faire ça ensemble plutôt que d'essayer chacun d'avoir tous nos minerais dans notre propre économie. Là aussi, c'est un vrai sujet de coopération sur lequel il y a une vraie valeur à se parler.
Oui, mais en même temps, ils sont très demandeurs de ça. Hein.
Ce club de confiance, ils sont aussi concurrents. Je veux dire, les membres du G7, les uns contre les autres.
Oui, mais justement,
comment on fait dans ces cas-là?
Justement, en fait, si on laisse juste la concurrence entre nous, on va tous perdre.
Oui.
En gros. C'est qu'on va tous perdre, on va tous chercher à s'approvisionner un peu à la va-vite, à n'importe quel prix, on payera tous plus cher et on ne sera pas plus en sécurité.
Et cette coordination, elle fonctionne aujourd'hui?
Elle avance pas mal.
Un peu. Il y a des pays qui sont très demandeurs. Regardez, il se trouve que j'ai une petite activité au Canada, je connais bien le Canada. C'est un pays qui est incroyablement demandeur de relations avec le Royaume-Uni et avec l'Union européenne.
Et le Premier ministre canadien était invité à la CPE aujourd'hui, à la réunion des Européens.
C'est un banquier central, il a une vision extrêmement précise de tous ces sujets-là. Et il voit bien que dans le domaine commercial, mais pas seulement, dans le domaine militaire par exemple, mais aussi dans le domaine en effet des minerais critiques, le Canada a beaucoup le nord du Canada, c'est des hydrocarbures et du pétrole. Ils savent très bien que nous, en Europe, en réalité, dans notre sous-sol, ça commence à se savoir, parce que la Commission européenne, d'ailleurs, fait un bon travail à ce niveau-là, mais on a beaucoup, nous, de minerais critiques. C'est un sujet absolument majeur pour nous de les extraire et de les
encore
raffiner.
Encore faut-il
et de
qu'on...
Les raffiner,
voilà,
surtout.
C'est ça, ouais,
oui, mais bon, je suis assez... Enfin, je trouve vraiment que l'Union européenne, pour le coup, fait un très... On avance bien sur ce sujet. Ben, les Canadiens, ils voient parfaitement clair là-dessus, voyez. Mais le Royaume-Uni, pareil. Rendez-vous compte qu'en ce moment, j'élargis un tout petit peu par rapport aux G7, mais pas complètement. Les Britanniques, le Parlement britannique en ce moment, ils sont en train de faire passer des lois pour que le Parlement puisse intégrer les directives de l'Union européenne de façon quasiment automatique. Vous rendez compte de ça ?
Le Brexit, hein.
Non. Mais c'est-à-dire que, en fait, si j'étais un Brexiteur, en réalité, c'est une soumission à l'Union européenne plus importante que quand le Royaume-Uni était à l'intérieur de l'Union européenne, parce que là, ils n'auront pas leur mot à dire sur les directives.
Ouais.
Mais donc, ils sont en train de demander à leurs parlementaires.
Ouais.
Oui, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, en fait, l'isolationniste américain et le fait qu'il est difficile de discuter avec la Chine parce que les surcapacités chinoises, en fait, c'est avéré. Le FMI nous dit les subventions à l'économie chinoise, ça représente 10% du PIB chinois. Bon, bah c'est juste gigantesque. Mais en effet, c'est un sujet dont on peut pas parler avec les, bah oui. les Chinois. Ils veulent pas parler de... Donc, on a des incitations extrêmement fortes à la coopération entre pays avec lesquels... Alors certes, il y a de la concurrence, etc. Bien sûr, mais enfin, vous voyez, Canada, Royaume-Uni, Union européenne, l'incitation à la coopération, elle a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui.
Là, on est sur le volet commercial. Je voulais qu'on parle du volet finance aussi, Dorothée Rouzé. Il y a trois priorités françaises pour le G7 Finance. C'est un peu, bon, c'est un peu des exercices classiques. Hein. C'est réduire les déséquilibres macroéconomiques, renforcer la sécurité économique, soutenir une croissance équilibrée, durable et préservant la stabilité financière. Quels sont précisément les objectifs de la France sur le volet financier ?
Alors, donc, comme effectivement, il y a trois grandes priorités. Donc, ça peut paraître un peu éthéré de dire. Alors, Anthony a commencé à en parler, voilà. de dire on veut réduire les déséquilibres macroéconomiques.
Ouais.
En fait, il y a un côté.
C'est Sisyphe, quoi.
Voilà.
En tout cas, hein, moi, ça
voilà,
fait 20 ans que j'entends la même chose.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle les déséquilibres macroéconomiques ? C'est que le fait que on a il y a des positions extérieures qui divergent de plus en plus. Donc, ça, c'est pas sans lien avec ce dont on vient de parler.
Les positions extérieures.
C'est-à-dire, les États-Unis sont en déficit commercial et déficit courant qui persiste. La Chine est en excédent qui persiste. Et la zone euro est en excédent qui persiste. En gros, c'est ces trois régions qui comptent. Alors, pourquoi c'est inquiétant? Déjà, parce que si on regarde, alors ces divergences, elles s'accroissent. Je dirais, la dernière fois qu'on était à peu près à ce niveau-là, c'était juste avant la crise de 2008. Et historiquement, ces épisodes de divergence, ils se résolvent par des crises. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a des flux de capitaux qui financent ces déficits, mais qui peuvent se retourner, ou qui peuvent financer la mauvaise chose. Typiquement, aux États-Unis, avant la crise de 2008, ils allaient vers les subprimes.
Les crédits hypothécaires auxquels plus personne ne comprenait.
Et donc, ces flux de capitaux, ils peuvent se retourner et créer une crise financière.
Oui.
Ou par ailleurs, l'autre chose qu'on voit bien, c'est que ces déficits, ils alimentent pas mal de ressentiments, des tensions, du protectionnisme, parce que les pays en déficit, choisissent des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes à un problème qui est véritable. Donc, en fait, pour éviter que ça se résolve par une crise économique ou financière, qui est effectivement très efficace pour réduire les déséquilibres, mais à un coût économique très élevé, la question, c'est est-ce qu'on peut chercher une approche plus coopérative ? En fait, ces déséquilibres extérieurs, ils sont toujours le reflet d'un déséquilibre dans le modèle de croissance de chaque pays.
Ah.
En gros, en Chine, c'est un modèle de croissance qui est tourné à fond vers l'investissement, vers l'export, en réprimant la consommation. En Europe, on n'a pas assez d'investissement, pas assez de productivité par rapport à notre niveau d'épargne. Donc, on manque d'investissement. Et c'est ça qui est à la source de notre excédent courant. Pas français, mais européen. Et aux États-Unis, c'est un modèle de croissance, en gros, qui est alimenté par la surconsommation, la dette et le déficit budgétaire. Donc, si chaque pays rééquilibre un peu son propre modèle de croissance pour se rendre lui-même dans un modèle de croissance un peu plus stable et un peu plus soutenable, en fait, on gagne en stabilité mondiale. Alors évidemment, est-ce qu'on est prêt à faire pour le G7 des choses qu'on n'aurait pas faites pour nous ? Non. Mais si on écoute la rhétorique plus que la pratique côté américain, ils disent qu'ils sont très attentifs à leur situation budgétaire et qu'ils veulent réduire les déficits.
Pour la première fois, le déficit fédéral va dépasser les 100% du PIB aux États-Unis.
La dette, oui.
De la dette, pardon, oui.
En Europe, l'Allemagne réinvestit massivement. On investit dans la défense, etc. Donc on est sans doute ceux qui prennent le plus le chemin du rééquilibrage. Alors en Chine, c'est pareil. Si vous lisez le 15e plan quinquennal, ils disent la consommation est une priorité. Dans les faits, on n'y est pas.
Ouais.
Mais c'est une base de discussion. Et en fait, ne serait-ce que d'arriver à un point... Alors évidemment, la Chine n'est pas au G7, mais dans ce cadre, on discute avec la Chine. Si on arrive à un point où, je dirais, chaque zone reconnaît sa contribution, je dirais, à ce risque sur la stabilité mondiale et s'engage à mettre en œuvre des actions pour essayer de les réduire, il vaut mieux le faire de manière coordonnée, parce que si l'un agit et pas l'autre, on peut avoir des effets sur la demande mondiale ou des effets sur les taux d'intérêt qui vont rendre les choses plus coûteuses pour tout le monde. Donc en fait, on a tous intérêt à agir de manière coordonnée. Évidemment, on ne le fera pas juste pour le G7 si on n'y voit pas notre propre intérêt, ça n'existe pas. Mais ne serait-ce que d'avoir cette discussion, j'irais d'admettre que dans les trois grandes zones, on en est collectivement responsable et qu'on a tous intérêt à éviter que ça se résolve par une crise, et de trouver les moyens de le faire, c'est déjà un objectif certes ambitieux, mais important, y compris à relativement court terme.
Donc je résume, pour les Chinois, stimuler la demande intérieure, pour les Européens investir sur le sol européen et pour les États-Unis rétablir un peu leur déficit. La dette américaine vient de passer les 100% du PIB américain, 1000 milliards de charges sur la dette payées chaque année. C'est des chiffres qui paraissent totalement délirants. Est-ce que on se dirige globalement vers une résorption de ces déséquilibres?
Malheureusement, je ne crois pas. Je suis parfaitement d'accord avec le diagnostic et c'est même sain d'essayer d'en parler. Mais les Américains, allez leur expliquer qu'ils consomment de trop, bon courage. Politiquement, c'est infaisable. Alors que la réalité, c'est qu'il y a un énorme problème de surconsommation du côté des ménages. La Chine, le vieux serpent de mer, c'est l'idée de dire qu'il faut stimuler la consommation, mais ils sont dans une logique où ils veulent dominer les technologies, donc la production. Et on peut les comprendre, parce que c'est aussi une arme de rétorsion. Alors maintenant, ça devient une grande puissance militaire, mais ça n'était pas le cas avant. Donc ils ont d'abord dominé, ou on va dire, ils ont assis leur domination sur une industrie sur laquelle ils peuvent faire pression sur l'ensemble des pays dans le reste du monde. Donc leur dire qu'il faut davantage consommer et relâcher une partie des contraintes qu'ils exercent sur le reste du monde via la production, j'y crois assez peu. Et même nous, au sein de la zone euro, ce qui, moi, me frappe, c'est qu'on n'est pas capable de dire aux Pays-Bas 10% d'excédent courant, c'est inadmissible, vous ne avez pas le droit de faire ça. Ça ne devrait pas pouvoir exister. Et ouais, pourtant, on le fait. Donc, même dans des pays
qui, normalement... Ça fait partie des déséquilibres agro internes à l'Europe, oui, ça, hein, normalement. Et on peut aussi... La Commission pourrait...
Et surtout dans des pays qui, normalement, se ressemblent, se parlent, enfin, on devrait avoir une capacité à converger rapidement. On n'y arrive déjà pas au sein de la zone euro. Donc, je suis assez pessimiste sur... Et je comprends, moi, les intérêts de chaque pays. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que même les Pays-Bas n'ont pas du
tout envie... Chacun pour soi, finalement, le règne des nations.
Bien sûr. Et puis, il vaut mieux être à la fin un pays qui a une position extérieure nette extraordinairement... prenez l'Allemagne, par exemple, c'est 80 points de PIB de position extérieure nette positive. Nous, on doit être à moins 30, moins 35. C'est sûr que quand vous êtes détenu par le reste du monde, vous êtes un peu vassalisé, en réalité. Et à l'inverse, quand vous détenez le reste du monde, vous avez une capacité d'agir, en tout cas, ou de faire pression.
Vous avez plus de pouvoir. C'est ce qu'il faisait dire à Jean-Marc Daniel ce matin, que les États-Unis étaient un pays du tiers-monde, en réalité, puisque c'est l'Europe qui détient Manhattan.
Ils ont d'autres moyens, d'autres leviers.
On est d'accord aussi, Nicolas Bouzou.
C'est très difficile, politiquement, évidemment, mais aussi concrètement, de résorber ces déséquilibres. Parti communiste chinois, ils sont parfaitement conscients des problèmes de surproduction. Ils l'ont parfaitement théorisé, c'est-à-dire que cette surproduction qui génère des baisses de prix, qui génère des baisses de marge, voire beaucoup d'entreprises. C'est très frappant, quand vous faites un peu de micro, vous regardez les très grandes entreprises chinoises qui nous impressionnent dans le numérique, dans l'automobile, etc. En fait, il y en a plein qui ne gagnent pas d'argent.
Ils ne sont pas profitables. Oui.
Parce que les prix sont très bas. Personne ne voudrait investir là-dedans avec nous, nos critères financiers d'investissement. Et alors ça, les Chinois, ils l'ont pas, le problème, il est parfaitement identifié. Simplement, comment faudrait-il faire en pratique ? Faudrait supprimer les subventions, enfin en tout cas les diminuer, c'est-à-dire assumer le fait que, au fond, vous avez tout un tas d'entreprises qui vont disparaître. Alors intellectuellement, c'est parfait, mais c'est exactement comme la résorption de la consommation aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui, on va mettre plein d'impôts sur la consommation, vous allez consommer moins parce que c'est bon pour vous. On va supprimer les subventions comme ça, enfin diminuer les subventions comme ça. Il y a plein d'entreprises qui vont disparaître et c'est formidable. Vous voyez que c'est ça la solution technique, mais c'est difficile, bon, ces pays à présenter.
On a un peu du mal à avoir un point d'atterrissage, effectivement.
Non, là, vous prenez la face nord, c'est-à-dire que les États-Unis dire on va diminuer la consommation, effectivement, c'est indicible. Dire que les États-Unis ont un problème de dette et de soutenabilité de la dette, et en fait, ils ont, d'ailleurs, si on reprend leurs annonces de l'année dernière, ils voulaient réduire drastiquement leur déficit.
Alors, c'était l'objectif aussi des tarifs douaniers.
Mais en tout cas, c'est un objectif à moyen terme qu'ils affichent, à défaut de prendre pour l'instant les actions sur la consommation ou de dire il faut un peu moins de dérégulation financière parce qu'il y a des risques financiers dans votre système. C'est indicible, ça je suis d'accord. Pour les Chinois, c'est pas indicible de parler de consommation. Dire réduire les subventions et laisser vos entreprises mourir et renoncer à dominer l'industrie mondiale, c'est plus compliqué. En revanche, ce qui plombe aussi la consommation chinoise, c'est le fait que la crise immobilière continue à traîner en longueur et n'est pas résorbée. À un moment, je dirais, nettoyer le bilan du secteur immobilier et redonner un peu de visibilité aux ménages là-dessus, investir davantage dans la santé et l'éducation, c'est aussi discible. Donc en fait, c'est aussi là qu'il faut trouver les voies où on peut s'entendre. Ne pas forcément partir sur les chiffons rouges de chaque pays, mais plutôt trouver les moyens qui sont entendable dans le contexte national, avec les contraintes nationales, économiques et politiques et sociales de chaque pays. Et c'est ça le travail en fait qu'on fait aussi, je dirais, à tous les niveaux pour essayer de trouver un chemin d'entente.
Il nous reste 30 secondes. Une dernière question, Dorothée, pour clôturer cette partie G7. Je répète ma question. Quelles seraient les trois réussites, les trois objectifs que vous considérez réussis en fin de G7, en fin d'année?
Alors, ce qui est difficile, hein, je vais même pas répondre à la question en 30 secondes, parce que quelque part, ce qui sort des G7, en général, c'est des communiqués. Donc, on peut se dire, bon, c'est qu'un texte, mais ces communiqués...
Et là, on fait bouger des lignes aussi.
Sont ceux qui font bouger des lignes au niveau des ministres du Commerce, au niveau des ministres des Finances, et ensuite au niveau des chefs d'État, ce qui est le plus important. Et donc, ces communiqués montrent un peu là où on a avancé dans notre compréhension commune, dans notre diagnostic commun, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on demande aux organisations internationales de faire aussi. Ça donne des feuilles de route aux organisations internationales. Et donc, quelque part, il faut savoir lire le texte ensuite pour voir les points sur lesquels on s'est entendu, typiquement sur le sujet dont je parlais. Si on a que les trois zones reconnaissent leurs responsabilités dans les déséquilibres mondiaux et s'engagent à agir pour les réduire, en fait, de notre point de vue, ce sera un succès. On pourra se dire c'est juste deux phrases, mais c'est une ligne qui bouge. De même sur les sujets commerciaux, c'est une question de faire bouger des lignes et d'agir dans la même direction. Et en fait, ça donne une feuille de route pour la suite. Le prochain G7, le prochain G20, etc.
Et voilà. Et la montagne qui remonte des années, des semaines, des mois, une année de travail pour que ces quelques lignes puissent bouger. Et c'est très important. Merci à tous les trois. On revient dans une toute petite minute. On va revenir maintenant en France. La situation française, la lettre de François Villeroy de Galo, la dernière au président de la République pour parler de l'état de l'économie française. Est-ce qu'il faut craindre une récession? Et puis on reviendra sur le débat du moment sur les pétroliers, les surprofits, évidemment, peut-être les taxes qui vont avec. À tout de suite.
Les experts, débat et controverses sur BFM Business.